Dime qué son los secretos de tu Dime cuál es el camino de tu divino
Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Pierrick Charles. Aujourd'hui, je reçois Jacqueline Kellen pour parler des béguines. Jacqueline Kellen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, vous avez été productrice d'émissions à France Culture pendant 20 ans, donc vous connaissez bien cette
oui.
radio. Vous avez publié nombreux ouvrages, une trentaine d'ouvrages. Nous vous avions reçu au début de l'année pour Un chemin d'Ambroisie, Amour, Religion et Chaustrap aux éditions de la Table Ronde. Et vous venez de publier Advige d'Anvers chez Albin Michel, le portrait d'une béguine mystique flamande du XIIIe siècle. Alors avant qu'on parle plus précisément de ce personnage étonnant d'Advige d'Anvers, j'aurais aimé que vous nous parliez un peu plus largement de ce mouvement méconnu et absolument passionnant des béguines. Qui sont les béguines ?
Qui sont les béguines ? Je dirais, ce sont à la fois des femmes inclassables et pourtant repérables. Un de leurs contemporains, qui était un religieux franciscain, leur dédie un poème. Et il dit entre autres, il s'interroge sur ces femmes qui ont cet art d'aimer et de chanter aussi l'amour. Il dit, elles sont libres d'elles-mêmes et de toute chose. Je trouve que la formule est magnifique et très juste. Ce mouvement béguinal a commencé à la fin du XIIe siècle et dans toute l'Europe du Nord. C'est le Hainaut, le Brabant, la Bavière, la France du Nord aussi. Alors après, on peut parler de l'étymologie qui est tout à fait contestée, pas du tout sûre, mais c'est un mouvement exclusivement féminin. De quoi s'agit-il ? Eh bien, ce sont des femmes qui désirent ardemment donner toute la place à leur vie intérieure, mais sans pour autant être sous tutelle d'un abbé ou d'un ordre monastique.
Ou d'un mari.
Ou d'un mari. Donc, elles inventent cette troisième voie parce qu'à leur époque, il n'y a pas trois possibilités pour une femme. Ce sont des femmes de la noblesse ou de la bourgeoisie, les premières béguines. Et donc, soit elles se marient et elles tombent sous la coupe d'un époux, si aimable soit-il, soit eh bien, elles deviennent religieuses, elles prononcent les vœux. Et elles entrent au couvent, et à ce moment-là, elles sont sous l'autorité d'un directeur de conscience, d'un abbé, d'un confesseur, etc., comme toutes les religieuses. Or, elles inventent, c'est extraordinaire, mais au XIIe, XIIIe siècle, les mouvements laïques, spirituels, sont très importants et très novateurs. Eh bien, ces femmes inventent justement cette troisième possibilité, à savoir... se consacrer à la vie intérieure sans dépendre du clergé. Mais elles sont bien sûr liées au christianisme. Elles ne rejettent pas ni l'Église ni les sacrements, même si certaines ne s'empêchent pas de formuler leurs critiques à l'égard d'un clergé riche, opulent, autoritaire, etc. Donc ces béguines, elles peuvent vivre... soit seule, comme Marguerite Porrette, on sait que c'était une femme qui vivait à Valenciennes et dans sa maison, soit assez vite, elle se regroupe, mais encore une fois, c'est original, parce que ce n'est pas une vie en communauté. Une vie de communauté, comme la mène les moniales, eh bien, elles sont toujours ensemble. Alors que là, les béguines ont cette finesse de rendre à la solitude toute sa richesse, puisque l'aventure spirituelle est avant tout singulière et solitaire. Donc chacune se trouve dans sa petite maison, mais elles sont regroupées à la fois pour des raisons de soutien affectif et spirituel et aussi certainement pour être plus fortes par rapport aux médisants, aux railleurs, aux persécuteurs parce qu'ils ont existé. Et ce mouvement a eu un succès tout à fait presque phénoménal, on va dire, puisqu'on sait, d'après, bien sûr, ce ne sont pas les statistiques de nos jours, mais au XIIIe siècle, donc l'époque de Hadwige, au XIIIe siècle, on compte en Europe du Nord 200 000 béguines, ce qui est énorme, étant donné la population de l'Europe.
Mais comment est-ce qu'elles vivaient matériellement?
Alors, voilà.
C'est une question concrète.
Puisqu'il est difficile d'être libre spirituellement si on n'assure pas son autonomie matérielle et financière, alors c'était des femmes, encore une fois, la plupart du temps, émanées de la noblesse, donc elles possèdent des biens, et encore une fois, comme elles n'ont pas prononcer les fameux trois vœux
pauvreté,
obéissance et chasteté, ce qui ne veut pas dire qu'elles font des commerces éhontés et qu'elles se livrent à une vie de débauche. Mais elles ont donc leurs biens qu'elles gèrent. Et par ailleurs, se voulant aussi, c'est un très bel équilibre entre l'action et la contemplation, la vie active et contemplative, eh bien elles se rendent utiles et elles gagnent aussi leur subsistance avec ces tâches, c'est-à-dire aussi bien l'enseignement, le soin aux malades ou aux personnes âgées, des travaux de couture. Alors par la suite, avec l'évolution, on connaît, ce n'est pas simplement une image romantique de la béguine, mais les travaux de couture, de draps et puis de la dentelle. Et c'est ainsi qu'elles sont indépendantes matériellement.
C'est vraiment des femmes modernes. Hein. Elles sont émancipées sur le plan spirituel,
oui,
matériel. Elles ne veulent pas dépendre effectivement des hommes dans leur vie quotidienne. Donc ce sont finalement des femmes modernes bien avant.
Oui, même certainement.
L'émancipation de la femme contemporaine.
Oui, même certainement beaucoup plus libre que beaucoup de bourgeoises du 19e siècle. Mais ce ne sont pas, si on en fait des féministes avant la lettre, ce n'est pas le cas, parce que elles ne sont pas regroupées contre les hommes. Et elles ont aussi des relations épistolaires ou spirituelles avec des religieux ou des hommes. Mais ce qui pose question à leurs contemporains, peut-être à nous encore aujourd'hui, mais à leurs contemporains, qu'ils soient religieux ou qu'ils soient laïcs, comment les classer? En effet, elles ne sont ni religieuses et pourtant elles pratiquent les vertus. Et elles commentent les écritures, elles se sont des femmes volontiers visionnaires ou extatiques, mais elles ne sont pas religieuses puisqu'elles ne sont pas cloîtrées, elles ne sont pas en dehors de la cité comme les ermites ou les moines, elles sont, les béguinages dont on a les traces sont au cœur de la ville, elles fraient avec les habitants, elles leur parlent, donc ça peut aussi leur être reproché, elles ne sont pas errantes puisqu'on peut quand même les situer, elles se rendent utiles, elles sont charitables, sur le plan du dogme, elles sont irréprochables. Alors que se passe-t-il? Alors la grande question au Moyen-Âge, en tout cas à cette époque, 12e, 13e siècle, eh bien c'est l'allure, leur libre allure. Le fait même pour un laïc de prêcher, d'avoir la prétention de transmettre la connaissance spirituelle est passible du bûcher de la condamnation à mort. C'est cette simple chose
qu'on va utiliser pour les éradiquer finalement. Finalement,
voilà.
On en parlera tout à l'heure, mais elles ont...
Donc, comme Pierre Valdo pour les Vaudois, il a été condamné au bûcher pour ça.
C'est-à-dire qu'elle prêchait sans avoir le contrôle, finalement, de l'institution
non,
sur...
Non, mais un laïc n'a pas le droit de prêcher.
Oui, mais on considérait qu'elles l'ont fait. C'est-à-dire qu'on considérait qu'elles avaient une influence.
Bah, bien sûr.
Et c'est ce qui leur a valu leur perte.
Eh oui.
Lélie Anvar, bonjour.
Bonjour.
Que pensez-vous des béguines?
Alors, justement, les béguines, je les connaissais par leurs textes, par... Je dirais une connaissance un peu vague par des visites dans des béguinats, mais j'ai lu votre livre avec vraiment grand intérêt parce que, en réalité, vous nous dites ce que sont les béguines à travers ce qu'a été l'une des plus brillantes d'entre elles, nommément Hadwige d'Anvers, à laquelle vous consacrez, je dirais pas une biographie, mais un livre, puisque vous dites très justement qu'on ne peut pas écrire la biographie d'Hadwige d'Anvers, étant donné que nous ne savons rien de sa vie. Si ce n'est simplement ce qu'elle a écrit et comment elle a vécu cet amour spirituel qui la tenait tout entière. En tout cas, dans ce livre, vous nous parlez beaucoup des béguines à travers elle et à travers, je dirais, une figure idéale de béguine. Parce que vous nous montrez aussi qu'il y a eu des dérives, que toutes les béguines ne sont pas aussi intellectuellement aussi brillantes, aussi spirituellement aussi exaltées et matériellement aussi ancrées que l'était Hadwige d'Anvers. Mais enfin, sa personnalité vous fait dire qu'elle est, elle peut être considérée comme l'idéal des béguines. Je ne sais pas si je vous ai bien lu, mais c'est vraiment ce qui paraît dans votre livre.
Oui, c'est une femme d'une envergure qui a dû faire de l'ombre à beaucoup de religieux, de théologiens de son temps. Elle cumule, si je puis dire, parce qu'elle est à la fois visionnaire, elle est poétesse, et en ce sens, elle est connue au moins dans la littérature pour être la première femme écrivain, même le premier écrivain de langue néerlandaise, bien sûr, néerlandais ancien. Elle est mystique, elle ne cesse de chanter son bien-aimé et elle est extrêmement cultivée. Elle connaît non seulement le français de son temps, elle connaît le latin. Sa culture est immense parce que non seulement elle est bien sûr influencée ou absolument imprégnée plutôt du Cantique des Cantiques, de l'Apocalypse, des psaumes et des écritures, mais en même temps elle connaît Richard de Saint-Victor, Bernard de Clairvaux, Saint-Augustin. Donc c'est une femme tout à fait admirable. Et puis le caractère, je trouve, surtout cette fierté qui ne plie pas. Cette noblesse, c'est un terme qui revient très souvent chez elle. L'âme fière qui doit prétendre à beaucoup plus que ce qu'on lui sert d'habitude. Et puis la façon de chanter. L'âme ardente, pour moi, l'âme mystique est nécessairement lyrique. Et les poèmes que l'on a trouvés d'elle... Six siècles et demi après sa disparition, montre qu'elle maîtrise parfaitement la technique, même si on n'a plus ses mélodies.
Alors justement, ce point est très intéressant, puisque vous dites qu'elle a été redécouverte six siècles, par hasard d'ailleurs, et six siècles plus tard, et vous montrez justement, et c'est peut-être un peu la thèse, si j'ose dire, du livre, c'est que vous montrez qu'il y a eu une véritable omerta sur... toutes ces femmes et tout ce qu'elles avaient à dire et tout ce qu'elles étaient, une omerta masculine. Nuançons, parce que vous montrez aussi qu'il y a des hommes qui les ont défendues, mais tout de même, entre ceux qui les ont carrément réduites au silence, qui les ont brûlées sur le bûcher, ou alors copiées impunément sans les citer, puisque vous citez un mystique flamand qui a fait cela, qui a fait sa célébrité sur l'œuvre de Hadewige d'Anvers.
Des noms.
C'est Jean van Rensbroeck.
Oui, Rensbroeck.
Ah, il est très connu,
Van Rensbroeck. Dont vous montrez qu'il est devenu très connu en pompant, si j'ose dire, les œuvres de Hadewige d'Anvers.
Oui, ça, je ne me fais pas d'amis du côté des Flamands, mais c'est un fait. Il est troublant, simplement. Il est troublant de constater que des femmes médiévales connues qui sont connues de nos jours comme Hildegarde de Bingen ou même Béatrice de Nazareth, une cistercienne qui a été élevée chez les Béguines, et d'autres femmes, même Angèle de Foligno, on a quand même leurs écrits. Ils ont toujours été conservés et donnés à la lecture des fidèles, au moins, ou des chrétiens. Bon. Parce qu'elles faisaient partie de l'institution. On ne va pas revenir, Hildegarde, abbesse, bénédictine, etc. Il est troublant qu'une femme comme Hedwige d'Anvers, en effet, qui ne fait pas partie de l'institution, qui a une autorité spirituelle évidente et qui a laissé une œuvre admirable, ait été très vite ou récupérée, en effet, plagiée, pour moi, ouvertement par Rensbroeck, qui ne cite pas ses sources, mais en plus qu'elle a été complètement oubliée. C'est un hasard magnifique.
Alors, comment on l'a redécouverte ?
C'est en plein milieu du 19e siècle. Ce sont des chercheurs en poésie néerlandaise, des savants qui font des recherches de la Bibliothèque royale de Bruxelles et qui tombent sur des manuscrits du 15e. Donc, ça veut dire aussi que ces textes étaient tout de même recopiés par certains chanoines ou chartreux. Et il trouve les textes admirables. Et puis, un autre manuscrit qu'il redécouvre porte en marge, en latin, un nom, Hadewigis de Anverpia. Et après, il y a un autre manuscrit retrouvé à Gand. Donc, ils rassemblent les sources et ils attribuent, donc ils étudient, ils décryptent et ils attribuent à cette fameuse Hedwige d'Anvers. On ne sait pas si jamais elle a vécu ou si elle est restée même à Anvers, mais ils attribuent à cette femme en effet des visions, des lettres et des poèmes qui sans nul doute ont été rédigés vers 1220-1240.
Mon père disait, c'est le vent du nord qui fait craquer les digues à Scheveningen, petit. tellement fort qu'on ne sait plus qui navigue la mer du Nord, bien les digues. C'est le vent du Nord qui transperce les yeux des hommes du Nord, jeunes ou vieux, pour faire chanter des carillons de bleu venus du Nord au fond de leurs yeux. Mon père disait, c'est le vent du Nord qui fait tourner la terre autour de Bruges, petit. C'est le vent du Nord qui a raboté la terre autour des tours de Bruges, et qui fait que nos filles ont le regard tranquille des vieilles villes, qui fait que nos belles ont le cheveu fragile de nos dentelles.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel. En compagnie de Jacqueline Kellen, nous parlons des Béguines à l'occasion de la sortie de son livre Advige d'Anvers ou La Voix Glorieuse chez Albin Michel. Alors Jacqueline Kellen, vous venez nous parler un petit peu déjà des béguinages, de cette tradition assez étonnante dans laquelle les femmes s'émancipent un peu effectivement des normes sociales de l'époque, de l'institution religieuse, pour vivre une vie spirituelle très libre. Mais alors, moi, j'ai une question qui me taraude depuis le départ. Je me dis, mais qui a initié ça? Est-ce que c'est un mouvement spontané qui est né dans plein d'endroits différents, ou est-ce qu'il y a eu quand même un fondateur, une fondatrice plutôt, quelqu'un qui a eu cette intuition et puis ça s'est développé, ou est-ce que c'est un mouvement qui naît en parallèle dans plusieurs villes, dans un contexte social particulier?
Oui, moi je pense que c'est cela, parce que justement, étant donné par rapport à l'étymologie, alors bien sûr, après on a inventé, alors très certainement c'est l'ancien néerlandais, le verbe begen qui veut dire murmurer, prier peut-être, parce qu'elles étaient très ferventes, mais bien sûr on a inventé, mais c'est très conventionnel, un évêque Saint Lambert le Bègue. Bon, je trouve ça extraordinaire, comme si à l'origine de tout fondateur est un homme. Et puis, mais il y a aussi Sainte Beige. Bon, mais de fait, c'est vraiment cette époque extrêmement vigoureuse qui traverse toute l'Europe, de ces mouvements spirituels, les bougres, les cathares, les humiliés en Italie. Et ils ne naissent pas spontanément, mais il y a des vastes mouvements de laïcs qui revendiquent, en effet, qui ne supportent pas que l'Église ait le monopole de la parole et de la bonne nouvelle, et qui revendiquent non seulement une vie à la façon du Christ, c'est-à-dire pas spécialement dans le luxe et l'opulence et le pouvoir, mais une vie simple, une vie de pauvreté, une vie apostolique, et qui sont souvent sur les chemins.
En fait, ils sont un peu dans la mouvance des ordres mendiants, où il y a ce désir de revenir à l'Évangile, à une vie, sauf que, à l'inverse des ordres mendiants, qui vont être tout à fait insérés dans l'institution, elles vont le vivre plutôt comme des électrons libres, en fait.
Exactement. Et c'est ça, justement, qui est la grande difficulté, enfin, qui va leur nuire, puisque on va après soit les empêcher de parler, de témoigner, de vivre même dans leur façon de vivre, leur statut sera interdit, et on leur proposera en effet de les récupérer.
Alors ça, on en parlera tout à l'heure. Revenons un petit peu sur le contenu de leur message. Est-ce qu'il y a des points communs entre toutes ces béguines? Parce que vous dites qu'il y en a des centaines de milliers. Donc, quels sont les points communs qui permettraient de dire qu'il y a finalement une forme de spiritualité, un courant spirituel qui a un certain visage? Quels sont les traits de ce visage?
Oui, c'est-à-dire on a des noms de béguines, et plusieurs ont bénéficié d'ailleurs de biographies. Bon, par exemple, la fameuse Marie Douani, qui était réputée pour sa sainteté, son jeûne, son ascèse. Et c'est un prêtre français qui est venu auprès d'elle. Elle était à ce moment-là près de Namur, et a écrit une biographie dont on a toujours le témoignage. Il y a beaucoup d'autres béguines, soit extatique, mais la plupart du temps, qui se livre à l'ascèse, à la mortification. Donc j'allais dire, ça ne dérange pas trop les religieux, dans la mesure où elles ne parlent pas, elles ne sont pas cloîtrées, mais elles vivent quand même assez retirées. Bon. Mais par rapport à celles qui s'expriment, celles qui créent, celles qui parlent, et puis en plus sans attendre l'approbation d'un supérieur hiérarchique du clergé, il n'y a pas beaucoup d'œuvres. Mais ces œuvres qui sont véritablement à l'origine, cette mystique est véritablement à l'origine de la mystique rhénane, avec Maître Eckhart, bien sûr, le premier. Voilà, mais et Maître Eckhart n'a jamais renié les béguines, il les a connues, fréquentées.
Il a même été un directeur spirituel, voilà, il a prêché au milieu des béguines.
Voilà, à Cologne et à Strasbourg, où c'était deux villes très, où se trouvaient énormément de béguines. Donc il y a à la fois cette ardeur de l'âme pour qui amour est tout. Bon, pour la béguine Hadwijk, je vais prononcer une fois son nom en flamand, Hadwijk d'Anvers, où donc nous disons Edwige ou Hadwich, eh bien, amour est tout. Et pour Marguerite Porrette aussi, elle le dira, peu m'importe, seul importe l'amour. Il y a cet amour, et puis il y a aussi cette... déjà cette vacuité, si je puis dire, cette non-connaissance, cette naissance, ce fond de l'âme, enfin tous des termes que l'on connaîtra davantage par Maître Eckhart, mais qui, c'est ce grand dépouillement, parce que quand on parle de la liberté de l'allure de ces femmes, la liberté ne se déploie que s'il y a un grand détachement de toute chose. Et très souvent, il y a cette image de la femme exilée en ce monde et qui se détache de tout pour rejoindre le bien-aimé. Donc c'est à la fois une voie ardente, une voie de grand détachement, une voie très solitaire. Et puis, alors c'est difficile parce que moi je connais surtout l'œuvre d'Edwige qui est la plus caractéristique, mais ce qui est... c'est ça qui caractérise la mystique des béguines, c'est surtout qu'elles vont leur propre chemin. Le grand mot des béguines, c'est sans intermédiaire.
C'est une relation directe avec Dieu.
Oui, donc le grand thème, c'est, ça nous paraît assez banal de nos jours, mais c'est l'expérience spirituelle, personnelle, vivante et irréfutable. Et ce sera d'ailleurs tout le procès de Marguerite Porrette. Le théologien dit, est-ce que c'est les points de doctrine, telle et telle chose? Et la béguine dit, non, mais voilà ce que je vis. Et ça, on ne peut pas argumenter ni nier cela. Donc l'expérience, la plupart ont eu, que ce soit Mechthild de Magdebourg, Marguerite Porrette, Edwige d'Anvers, elles ont eu des visions, des extases. Donc on peut toujours... mettre en question, on peut toujours plaisanter, on peut toujours expliquer cela après, dans les siècles futurs, par des problèmes, des dérangements psychologiques. De fait, elle livre une expérience intérieure irréfutable et qui leur fait tout abandonner et pour amour.
Ça, c'est effectivement l'éternel débat entre les mystiques et les théologiens. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui va vous faire plaisir, je pense. C'est un vieux moine orthodoxe, très libre, qui me disait, au fond, il y a une source divine à laquelle s'abreuvent tout un certain nombre de mystiques dans tous les courants, et ils la boivent en silence, en goûtant à cette même source et en se souriant les uns les autres. Et puis, loin derrière l'eau, pour être sûr de ne pas être aspergé par l'eau, vous avez les théologiens, les érudits, les docteurs de l'Église, etc., qui discutent indéfiniment pour savoir si l'eau est calcaire ou si elle est minérale, si elle est gazeuse ou si elle est plate. Et ils n'ont pas vécu cette expérience qui permette aux mystiques de se comprendre et de vivre une expérience qui leur paraît justement indiscutable parce qu'elle est ancrée dans leur chair, dans leur esprit, alors que de l'autre côté, on est devant des définitions, des traditions, et que c'est dommage que ce soit les traditions qui norme l'expérience, alors que ça devrait être plutôt l'expérience qui est au cœur de tout.
Il y a ça, donc il y a ce désir de l'âme, il y a la liberté de l'âme. Il y a une phrase extraordinaire dans les lettres d'Edwige, l'être spirituel, parce qu'elle a donné des instructions, elle a certainement guidé d'autres personnes et d'autres béguines, où elle dit que l'âme, c'est le chemin que se ferait la liberté de Dieu. C'est tout à fait extraordinaire. Et puis il y a aussi ce défi, moi que j'aime beaucoup. Il n'y a pas du tout cette insistance, et je pense que c'est ça qui leur est reproché, parce que la souffrance, le péché, ça vous soumet à l'emprise d'une institution. Il n'y a pas du tout l'insistance sur la mortification, la souffrance, le péché, l'homme faible et pécheur, extrêmement humble, voire humilié.
Il n'y a pas ce dolorisme.
Pas du tout. Le Christ dont elle parle, le bien-aimé qu'elle voit, ce n'est pas
joyeux.
Du tout le crucifié, c'est le Christ que l'on voit au XIIe siècle à Vézelay ou ailleurs, le Christ
en
rayonnant
gloire.
Le Pantocrator. Et donc, l'âme doit être noble et fière, elle doit recouvrer sa splendeur, c'est-à-dire ne pas... simplement s'humilier, se mortifier, ou surtout pas se mortifier, mais méditer, faire silence, lire les Écritures, faire du bien aux autres, mais surtout être ardemment éprise de plus en plus du bien-aimé. Donc il y a cette revendication glorieuse d'une mystique
Et en ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, elles sont extrêmement modernes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, le christianisme doloris ne touche plus grand monde. La majorité aujourd'hui des chrétiens sont quand même plus touchés par un message de joie, un message de paix, un message d'amour, que par un message de douleur, de souffrance, même si dans l'Opus Dei ça existe encore et dans d'autres lieux, c'est minoritaire. Elles ont elles ont vécu une forme de christianisme qui aujourd'hui a gagné, je dirais d'une certaine manière, dans la plupart des consciences, c'est ce qui me semble.
Oui, le jour où on ne répétera pas à longueur de sermon que l'homme est pécheur et la faute originelle,
ça se
etc.
dit moins ça aujourd'hui, je pense que c'est plutôt le christianisme qu'on a pu connaître il y a encore avant le Concile Vatican II, et je pense qu'aujourd'hui la pastorale chrétienne a quand même un peu évolué, beaucoup évolué, vers une vision d'un christianisme plus joyeux, plus que ce qu'on a pu connaître dans notre enfance, il me semble. Lélie Anvar, vous en pensez quoi ?
Peut-être qu'on insiste moins sur le dolorisme, mais je ne suis pas sûre que l'amour dont il est question et de la joie dont il est question dans la pastorale moderne, comme vous dites, ce soit exactement le même amour dont parle Edwige d'Anvers. En tout cas, je n'ai pas entendu ces sermons-là, j'imagine mal un prêtre en train de prononcer des sermons qui ressemblent de près ou de loin à ce que dit Edwige d'Anvers, qui est effectivement incandescente.
Pour une fois que j'essayais de défendre l'institution.
Oui, moi je ne voulais pas en rajouter justement, mais moi dès que j'entends un sermon, et de nos jours, donc on n'est pas avant le Concile Vatican II, j'entends toujours parler du péché à longueur de journée.
Non, peut-être qu'il y a un peu plus de joie, ça je suis d'accord, mais c'est vous allez voir que dans le texte que je vous ai choisi,
donc
l'amour c'est mine.
Évidemment,
je ne sais pas, ce
serait très beau un jour dans une église de donner comme lecture un poème d'Edwige d'Anvers, ce serait peut-être une expérience à faire. En tout cas... oui, j'ai choisi un de ses poèmes. Elle a un corpus poétique très, très lyrique, très incandescent, dans lequel elle parle beaucoup d'amour. Et puis, ça nous permettra... Je l'ai choisi parce qu'il est vraiment saisissant et qui montre les paradoxes de l'amour. Ça commence par l'idée précisément que ce qui est le plus doux dans l'amour, ce sont ses violences. Donc c'est vraiment à la fois une souffrance, un déchirement, une joie. Enfin, ça passe par tous les éventails des émotions humaines. Mais je l'ai choisi aussi parce que peut-être qu'après ça vous permettra, Jacqueline Kellen, de nous dire un mot de ce que vous entendez par la distinction entre la mystique de l'union et la mystique de l'essence, ou pour faire court, la mystique féminine et la mystique masculine. Je dis tout de suite aux auditeurs que vous ne reniez absolument pas la mystique masculine, mais vous avez quand même une tendresse particulière pour la mystique des noces nuptiales, cette mystique inspirée du Cantique des Cantiques. Ce que l'amour a de plus doux, ce sont ses violences, son abîme insondable et sa forme la plus belle. Se perdre en lui, c'est atteindre le but. Être affamé de lui, c'est se nourrir et se délecter. L'inquiétude d'amour est un état sûr. Sa blessure la plus grave est un baume souverain. Languir de lui est notre vigueur. C'est en s'éclipsant qu'il se fait découvrir. S'il fait souffrir, il donne pure santé. S'il se cache, il nous dévoile ses secrets. C'est en se refusant qu'il se livre. Il est sans rime ni raison, et c'est sa poésie. En nous captivant, il nous libère. Ses coups les plus durs sont les plus douces consolations. S'il nous prend tout, quel bénéfice! C'est alors qu'il s'en va, qu'il nous est le plus proche, son silence le plus profond et son chant le plus haut. Sa pire colère et sa plus gracieuse récompense, sa menace rassure et sa tristesse console de tous les chagrins. Ne rien avoir, c'est sa richesse inépuisable. Voilà le témoignage que moi-même et bien d'autres, nous pouvons porter à toute heure à qui l'amour a souvent montré des merveilles, dont nous reçûmes dérision, ayant cru tenir ce qu'il gardait pour lui. Depuis qu'il m'a joué ses tours et que j'ai appris à connaître ses façons, je me comporte tout autrement avec lui. Ses menaces, ses promesses, tout cela ne me trompe plus. Je le veux tel qu'il est, peu importe qu'il soit doux ou cruel, ce m'est tout un.
Vous êtes sur France Culture et nous poursuivons notre conversation avec Jacqueline Kellen sur les béguines. On a parlé, donc on a eu ce très beau texte sur l'amour. Je sais, Jacqueline Kellen, que vous, c'est un thème, l'amour, que vous poursuivez dans beaucoup de vos livres. Vous avez beaucoup travaillé sur l'amour courtois, les troubadours, etc. Est-ce qu'il y a un lien un peu entre cet amour? Voilà, ça semble
totalement.
Un peu dans la même tonalité.
Elle est de l'époque, Edwige d'Anvers, c'est de l'époque, et les autres béguines, elle est tout à fait de l'époque des troubadours, des trouvères, et elle est à la fois femme chevalier ou chevaleresque, elle est femme troubadour, comme il a existé des femmes troubadours en Pays d'Oc au XIIe, XIIIe siècle, dont on a gardé des œuvres et des mélodies, des poèmes et des mélodies. Et elle est tout à fait dans cette thématique de la lyrique courtoise, en effet. Et ce que je trouve très, très joli, très judicieux, très significatif, c'est qu'elle emploie très peu, ou du moins dans ses lettres où elle... Encore une fois, elle propose des conseils très chaleureux et tendres à d'autres béguines ou des religieux. Elle parle de Dieu, elle parle aussi de la Trinité, donc elle fait un peu sa théologienne. Mais pour elle, ce n'est pas Dieu qui compte, si je puis dire, c'est amour. Ou au-delà de Dieu, il y a amour, parce qu'on ne sait pas comment le nommer. D'où justement les paradoxes, la douceur c'est la violence, la blessure c'est le baume, etc. Parce que, dit Edwige d'Anvers, il y a les serviteurs et il y a les amoureux. Et je dirais plutôt, il y a les serviteurs, ce qu'elle dit, les dévots, et puis il y a les amoureuses. Et Dieu, j'allais dire, notre visage, notre image de Dieu, ou celle qui est souvent proposée, l'image proposée par la religion, c'est un Dieu ou tout-puissant, un peu inquiétant, ou au contraire un Dieu protecteur paternel, mais dans lequel on est dans un rapport de dépendance où on est, auquel on est soumis. Alors que le Dieu des mystiques, elle appelle amour ou bien-aimé, eh bien, c'est un rapport, j'allais dire, presque à égalité, et c'est la figure du bien-aimé. Donc, on n'est plus du tout dans un rapport de dépendance, de filialité, mais on est dans un rapport, au mieux, de nuptialité. Et donc, elle est tellement... mais imprégnée totalement du cantique des cantiques. Elle est cette belle qui va à la poursuite de son aimé. Et en effet, jamais les unions existent. Elle les relate dans l'être et vision. Et c'est extrêmement troublant parce que, à ma connaissance, j'ai lu beaucoup de mystiques, il y a beaucoup d'extase, de désir, de rencontre. Mais très rares sont les femmes mystiques qui relatent leur union mystique. Et là, quand elles voient le bien-aimé, ce n'est pas du tout une figure éthérée. Et lorsqu'elle est, elle est touchée par ses visions, ce n'est pas non plus par l'intermédiaire d'une flèche, d'un séraphin, etc., comme chez Thérèse d'Avila ou d'autres mystiques. C'est un homme, bien sûr indescriptible, mais beau de visage, viril, doux et puissant, et qui la prend dans ses bras, qui lui murmure des mots tendres ou des mots fous. Et il y a véritablement union des amants. Ce qui, en effet, là aussi peut être troublant pour lorsqu'on prend toujours de façon très allégorique, éthérée, le cantique des cantiques, lorsqu'on l'interprète toujours de façon, enfin à distance. C'est comme si Edwige en particulier, peut-être d'autres béguines, remettait au centre de la vie spirituelle ce qui est une expérience fondamentale dans toute vie humaine, sur laquelle on n'a pas prise mais qu'on accueille, je pense, avec joie, qui est l'expérience amoureuse. C'est comme si au fil des siècles, ce qui n'est pas du tout le message du Christ, c'est comme si au fil des siècles, l'institution avait dépossédé, j'allais dire, les chrétiens de cette expérience fondamentale, fondatrice et heureuse qu'est l'expérience de l'amour humain, l'expérience amoureuse, pour, oui, l'en déposséder, pour après le transférer sur une divinité. Et Edwige d'Anvers, elle rappelle que c'est pour ça que « mine », donc ce terme néerlandais, « amour », tantôt elle met une majuscule, tantôt une minuscule, « amour », c'est tout un éventail. La divinité n'a pas le monopole non plus de l'amour.
Oui, mais alors le paradoxe, non, quand je vous écoute, le paradoxe quand même de ce que vous dites, c'est que vous dites qu'à la fois elle rappelle que c'est l'amour humain, incarné, charnel, qui est au cœur de l'expérience, mais en même temps elle ne le vive pas avec un homme. Parce qu'on pourrait dire, alors si elles vont jusqu'au bout de leur logique, pourquoi ne pas vivre dans une relation amoureuse homme-femme cet amour-là? Pourquoi être dans la chasteté et y renoncer?
Pourquoi dans la chasteté, elles n'ont pas prononcé de vœux de chasteté? C'est bien ça
mais
la question.
Mais vous disiez qu'elles étaient célibataires quand même.
Ah non, non, les béguines, on n'en a pas.
À l'époque,
les béguines peuvent mariées, être, elles peuvent être veuves en effet ou célibataires, mais il n'y a pas d'interdiction. Elles ne sont pas cloîtrées, elles le feraient encore une fois avec la population.
Donc vous voulez dire qu'elles ont pu avoir des expériences amoureuses.
Et moi j'en suis persuadée pour être vive.
Sans être mariée pour autant.
Tout à fait. Moi j'en suis persuadée. Alors ce qui est troublant tout de même, enfin moi je le sens par rapport à ce qu'elle dit quand on lit ses poèmes, l'ambiguïté, mais cette belle ambiguïté demeure, qui fait le lien justement entre le spirituel et le charnel, cette ambiguïté, elle chante à la fois, elle dit bien aimé et elle peut tout à fait, et je l'espère, chanter l'homme qu'elle aime en même temps que le Christ, ou elle chante le Christ en même temps que l'homme qu'elle aime. Où est le péché? Ça, c'est nous, après coup, qui disons que c'est troublant. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'après, il y a eu, au début, ces femmes n'avaient pas de règles monastiques, encore une fois, mais après, les béguinages...
Ils se sont donné des règlements, quand même, intérieurs.
Et oui. Certains règlements, on a trouvé, bon, par écrit, donc c'est plus tardif, mais 14e, 15e siècle, où il est écrit, une béguine ne doit pas avoir d'animaux familiers chez elle, elle ne doit pas chanter des chansons, j'allais dire, à la mode... elle ne doit pas recevoir un homme chez elle, à moins que ce soit... Bon,
ni animaux familiers, ni hommes.
Voilà.
Ça veut dire que ça a dû exister. Voilà. Et donc, il y a peut-être eu effectivement des critiques De l'institution ou de la population, comment qu'elles avaient des mœurs libres.
Oui, et ça explique peut-être la manière dont elles ont été finalement
Alors comment on les a supprimées?
Parce qu'on les a confondues aussi avec les frères et sœurs du libre-esprit, alors le titre à lui seul, qui eux étaient certainement vivaient en communauté de toutes les façons, si je puis dire. Et qui
dans
étaient,
le mouvement de Joachim de Flore.
Voilà.
Mais alors, comment est-ce qu'elles ont disparu? Parce que vous dites qu'elles ont été plusieurs centaines de milliers. Comment est-ce que du jour au lendemain, tout ça s'est arrêté?
On ne va pas dire du jour au lendemain, mais au XIVe siècle, fin XIVe, le mouvement béguinal...
S'est éteint.
En pleine floraison, s'est éteint. Enfin, s'est éteint, a été éradiqué. Enfin, c'est comme s'il y avait une sorte de marché qui leur est proposé. Soit, en effet, parce que... certes, il y a eu, il faut le reconnaître, soyons honnêtes, il y a eu des papes, il y a eu des bulles papales qui ont été promulguées pour soutenir ces femmes qui, par ailleurs, paraissaient irréprochables, du moins qui faisaient du bien, et on ne pouvait pas dire du mal de ces femmes, ou certaines, justement, celles qui menaient une vie assez ascétique. Bon. Il y a eu donc des bulles papales, il y a eu des religieux qui sont venus, qui les ont soutenus, qui les ont admirés, qui se sont étonnés. Bon. Mais il y a eu aussi des théologiens et des papes qui ont voulu absolument les éradiquer, et surtout, tout s'est tourné autour du fameux concile de Vienne, en Dauphiné, 1311, 1312, ce fameux concile qui a liquidé le statut des béguines et en même temps que l'œuvre du fameux maître Eckhart. C'est le même concile de Vienne. Et à ce moment-là, eh bien, les béguines étant considérées comme des femmes dangereuses ou folles qui jetaient le trouble chez les braves gens, parce qu'il n'y a pas simplement les religieux qui se sentaient en rivalité, il y a aussi les braves gens qui disent quelles sont ces femmes libres qui parlent, qui prêchent. Et elles sont bien et en même temps ces troublantes ne sont pas religieuses. Vous savez, c'est ce qu'on appelle, c'est joli, en latin on disait les femmes indisciplinées, indisciplinatae, hein, mulieres indisciplinatae. Donc les femmes sans discipline, au sens elles n'avaient pas de règles monastiques, mais entre l'indiscipline et l'insoumission, il n'y a qu'un pas. Et donc, soit elles ont été strictement chassées, on le sait, on a des documents historiques pour le coup.
Donc on a fermé
exemple,
les béguinages par la force, en fait.
Ah oui, par exemple, l'évêque de Bâle, avec sa grande charité chrétienne, l'évêque de Bâle, parce qu'il y avait beaucoup de béguines aussi à Bâle, du jour au lendemain, il a dit aux béguines, vous quittez le béguinage et on ferme tout. L'autre possibilité plus charitable, c'est... vous intégrer, non pas réintégrer parce qu'elle n'y était jamais entrée, vous intégrer le sein de notre mère l'Église et vous gardez votre terme, votre appellation béguine, ça n'est pas bien grave, mais de fait, elles deviennent cisterciennes. Et c'est alors, au fil des siècles, et surtout au XVIIe siècle, qu'on a reconstruit ces béguinages que l'on voit de nos jours. Et là, de nouveau, ce sont des religieuses qui prononcent les vœux, qui sont soumises à un confesseur, etc. Et là, elles sont cloîtrées. C'est-à-dire, elles ne parlent plus.
Oui, il y a eu vraiment une récupération... ou une éradication. Et l'éradication a été parfois très violente, puisque certaines ont été brûlées.
Oui.
C'est le cas de Marguerite Porrette, qui est très connue également.
Et déjà, du temps de Edwige d'Anvers, elle parle d'une béguine à Leydis, donc au XIIIe siècle, qui a été brûlée donc de son temps. Elle parle de cela. Et puis, on le sait, c'est plus tardif, puisque c'est le XIVe siècle, c'est une béguine française qui vivait à Valenciennes et qui n'avait pas de disciples et des mules. D'ailleurs, leur propos n'est pas de faire des disciples, de fonder un ordre et qui est une âme pure, une âme mystique qui à un moment de son parcours en effet dit on n'a plus besoin des échafaudages une fois que l'âme a rencontré l'amour, a trouvé sa chanson. Et à ce moment-là, il y a eu un long procès tout à fait odieux et elle a été condamnée au bûcher et elle a été brûlée. C'est toujours l'argument, elle se passe de l'institution, sans intermédiaire, et entre autres, on lui reprochait, comme on a reproché à beaucoup de béguines, d'évacuer les sacrements, les vertus, etc. C'est faux, puisque par exemple, on sait que l'institution de l'adoration du Saint-Sacrement est due justement à une béguine, Julienne de Cornillon, pour la nommer. Mais c'est surtout... à un moment du parcours, à un point élevé, avancé du parcours intérieur, en effet, l'âme ne peut se passer, enfin, ça n'a plus de raison d'être, c'est hors champ, ça n'a plus de signification, elle peut se passer de la prière, des sacrements et surtout du confesseur, de l'institution, etc. C'est ça le point crucial.
Délie.
Oui, d'ailleurs, j'ai choisi un extrait justement du Miroir des âmes simples et anéanties pour lequel Marguerite Porrette a été donc brûlée en 1310. Hein, donc c'est oui. Juste avant
À Paris, sur l'actuelle place de l'Hôtel de Ville.
Absolument. Et en effet, donc alors, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que il reprend un genre très courant au Moyen Âge, hein, dans lequel en fait, il y a différentes entités de l'être qui dialoguent entre elles. L'âme, la raison, l'amour. Enfin, il y a ces personnages, je dirais, qui entrent en scène.
Comme les mystères
oui,
au Moyen-Âge.
Exactement. Mmh. Et qui discutent. Et il y a d'ailleurs des très beaux passages dans lesquels l'amour explique à la raison pourquoi elle a tort. Donc, il y a des développements comme cela. Et c'est vraiment une œuvre saisissante dans sa construction même. Même si c'est un genre connu, elle le reprend d'une manière qui est quand même très... dans laquelle on sent qu'elle a vécu ces choses. C'est-à-dire qu'elle a vraiment vécu ce dialogue, ces dialogues intérieurs. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et le texte que j'ai choisi, d'ailleurs, montre bien qu'elle pressentait qu'elle allait être critiquée et peut-être même plus par rapport à les théologiens. Et la réponse qu'elle fait dans ce texte, déjà, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire il n'y a pas de réponse, il n'y a pas à argumenter sur l'expérience. Surtout quand cette expérience, ce n'est pas l'amour que moi j'ai pour Dieu, mais l'amour que Dieu a pour moi. Ce qui, évidemment, on ne peut pas se défendre contre une telle expérience. On ne peut que s'y laisser prendre et puis en rendre compte. Ô bien-aimé, que vont dire les béguines, les gens de religion, entendant l'excellence de votre divine chanson ? Les béguines déclarent que je suis égarée, et les prêtres aussi, les clercs et les prêcheurs, les augustins, les carmes et les frères mineurs. Car l'état dont je parle, c'est l'amour achevé sans sauver leur raison qui leur fait dire cela. Désir, vouloir et crainte leur ôtent certes la connaissance, la richesse et l'union de la haute lumière de l'ardeur du divin amour. Vérité le déclare à mon cœur, je suis aimée d'un seul. Elle dit que c'est sans retour, qu'il m'a donné son amour. Ce don tue ma pensée des délices de son amour. Délices qui m'exaltent et me transforment par union en la joie éternelle d'être au divin amour. Divin amour. Divin amour me dit qu'il est entré en moi, si bien qu'il peut tout ce qu'il veut. La force qu'il m'a donnée, elle est du bien-aimé que je tiens en amour. À lui je suis vouée et il veut que je l'aime, si bien que je l'aimerai. J'ai dit je l'aimerai, je mens, je n'y suis pas. Il est seul à m'aimer, il est, je ne suis pas. Et plus rien ne m'importe, sinon tout ce qu'il veut, sinon tout ce qu'il vaut. Il est en plénitude, j'en reçois plénitude. C'est là le divin cœur et nos amours loyales.
Cette émission Les Racines du Ciel avec Jacqueline Kellen touche hélas à sa fin et nous recevons pour l'agenda culturel Marie Dalquier qui une fois par mois nous fait une chronique culturelle. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous allez nous parler des béguinages.
Oui, voilà, parce qu'effectivement, finalement, les béguines ont complètement disparu. Alors, ce qui reste d'elles, finalement, au XIIIe siècle, bah, aujourd'hui, c'est les béguinages, c'est les lieux dans lesquels elles ont vécu, dans lesquels elles ont pu, justement, finalement, se rassembler, se protéger, s'entraider. Alors, bah, c'est l'occasion, pourquoi pas, d'aller dans le pays flamand. Et puis, c'est notamment l'occasion, parce que ces 13 béguinages qui ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998, qui sont assez magnifiques, bah, c'est des beaux lieux de contemplation où il y a vraiment le silence, le respect. C'est l'occasion d'aller à Gand, à Louvain, à Anvers, à Dieppe, même à Bruges. Alors en fait, ce sont un peu des villes miniatures dans lesquelles elles étaient complètement autonomes économiquement, comme on vous en parlait tout à l'heure. Elles s'installaient plutôt en dehors des cités médiévales, près des hôpitaux et puis des cours d'eau aussi. Alors il y en a un très beau près de Bruges qui est au bord du canal. C'était finalement des bâtiments, donc il y avait vraiment le style flamand hein, qui est assez caractéristique, qui mélange ce côté religieux et en même temps traditionnel. Donc c'était des maisons blanches ou en briques, à touche-touche comme ça, toutes les unes près des autres, bien serrées, avec quelques lucarnes. Et puis au début en fait c'était des logis communs dans lesquels elles étaient toutes qu'on appelait des conventes, C-O-N-V-E-N-T. Et pas des couvents. Il y avait aussi l'infirmerie, il y avait les ateliers, donc tissage, poterie, copie de livres, blanchisserie. Et puis au XVe siècle, on a vu apparaître des maisonnettes. Finalement, c'était les béguines un peu plus riches qui venaient et puis qui construisaient elles-mêmes leurs maisons. Par contre, à leur décès, ces maisons revenaient à la communauté. Et on trouve en gros deux sortes de béguinages. Les béguinages à cours, c'est-à-dire ces maisons qui sont mises en forme de triangle ou de carré. Et au centre, on a un grand jardin avec le cimetière qui entoure l'église en son centre. Ça, on peut en trouver à Asselt ou à Termonde. Et puis, on a aussi des béguinages à rue. Alors là, on les trouve à Louvain, à Malines ou à Lierre. Et là, ce sont plutôt des maisonnettes qui ressemblent beaucoup à des cités médiévales. En fait, elles sont alignées comme ça, parallèlement. Et du coup, ça fait des petits carrés rectangulaires à l'intérieur desquels on a des jardins assez bucoliques. Donc, c'est très, très beau de se promener, de se perdre un peu dans ces ruelles qui sont justement vraiment dans une enceinte. Comme elles se protégeaient elles-mêmes, bah, c'est des endroits vraiment très silencieux.
Vous avez visité Jacqueline Kellen?
Ah oui, j'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup. Et celui de Lire, enfin L-I-E-R, de lire est merveilleux. Enfin, maintenant, ils sont loués à des particuliers. Souvent, ce sont des artistes, d'ailleurs, ou à Louvain, ce sont des étudiants. Mais il y a toujours cette idée, alors on dit silencieux, mais de fait, à cette époque-là, au XIIe, XIIIe, ça bruissait d'oiseaux. Hein, et surtout, ça rappelle ce fameux jardin du Cantique des Cantiques.
Hein, c'est vraiment l'orchestre. Est-ce que ce sont des lieux historiques qui ont existé ou c'est des reconstitutions à l'identique? Ce sont des reconstitutions.
Oui, l'emplacement est certainement 12e,
voilà,
13e.
On les a refait,
mais justement, même cette organisation que vous décrivez très bien, avec l'hôpital, etc., c'est typique d'une communauté qui vit en autarcie, si on peut dire, et qui ne ferait pas avec l'extérieur. D'où les hauts murs. Donc là, on est dans la communauté religieuse. Certes, elle s'appelle toujours béguine, mais ce sont des religieuses. Les béguinages qu'on voit sont en effet très intéressants parce qu'on imagine, et surtout celui de Bruges, on peut imaginer cette qualité de silence, de beauté, etc. Mais les autres feraient davantage avec le couvent.
Oui, en effet, finalement, aujourd'hui, il y a très peu de choses parce que les enceintes sont devenues des remparts, les petits portails sont devenus des immenses portes, même un peu rococo comme on en trouve à Anvers, parce qu'après, l'idée était de les cloîtrer, de les contrôler, donc on n'a plus du tout aujourd'hui. Voilà, donc, c'est l'occasion d'aller voir ces béguinages. Alors, une dernière annonce. Le 7 novembre à 20h, Lélie Anvard lit le Cantique des Cantiques avec Raphaël Enthoven à l'amphithéâtre de la Radio Communauté Juive le 7 novembre à 20h.
Merci Marie et merci beaucoup Jacqueline Kellen. C'était à nouveau un plaisir de vous recevoir aux Racines du Ciel.
Merci à vous.
Je rappelle que vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter pendant un mois sur notre site internet franceculture.fr. La semaine prochaine, je recevrai Isabelle Claire qui nous parlera de Krishnamurti. Tout de suite, vous retrouvez le journal de 8h. Très bon dimanche à tous, à la semaine prochaine.